bonjour à tous ceux qui nous retrouvent sur Internet. Merci à tous ceux qui m'ont écrit. Dieu bénisse tous ceux qui font des requêtes de prière. Et nous prions pour vous tous les jours avec mon épouse et nous attendons des nouvelles maintenant, savoir ce que vous avez reçu de Dieu. C'est bon aussi que nous puissions savoir quand est-ce qu'il faut arrêter de prier pour vous, quand vous avez reçu votre bénédiction. Voilà, eh bien écoutez, aujourd'hui ça fait tout drôle puisque nous n'avons pas nos musiciens avec nous, mais voilà, ils sont sur la route et que Dieu les bénisse, que tout se passe bien pour eux. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, 1, s'il vous plaît. Après ma prédication, notre frère Francis, on a Francis et Fabrice qui nous rendent visite. Alors bon, c'est la panique entre les deux noms. Francis, on mélange tout. Il nous racontera, il nous donnera un petit témoignage de ce qui s'est passé pour lui cette semaine, juste après la prédication. Lisons dans 1 Corinthiens 11, 1. En fait, c'est 11, 1. « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. » Au verset 2, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je crois, mes frères et sœurs, que comme il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, je crois aussi que c'est impossible de terminer notre vie ici-bas, de terminer notre course ici-bas sans la grâce. Paul, il nous exhorte à suivre son exemple, à l'imiter, comme lui l'imite Jésus-Christ. Or, pour pouvoir suivre l'exemple de Paul, il ne faut pas seulement lire ce qu'il a écrit, tout ça, mais nous devons connaître sa vie, chercher à connaître sa vie. Et ensuite, nous avons à souhaiter de tout notre cœur de pouvoir suivre cet exemple. À avoir les mêmes attitudes que lui dans notre vie de disciple. L'apôtre Paul était un homme de foi. Absolument. Et quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », ça ne veut pas dire « Je peux me sortir de toutes les difficultés par celui qui me fortifie ». Ça ne veut pas dire « Je peux me sortir de toutes mes maladies par celui qui me fortifie ». Ça ne veut pas dire « Je peux sortir de toutes les persécutions par celui qui me fortifie ». Ça ne veut pas dire « Je peut me sortir de tous mes problèmes financiers par celui qui me fortifie. » Ça ne veut pas dire ça. Ça signifie qu'il peut vivre toutes ces choses par la force que Jésus lui donne. Il peut vivre dans l'abondance, comme dans la disette, dans la maladie, comme dans la santé. Il peut vivre dans n'importe quelle situation par la grâce de Dieu qui le fortifie. C'est ça que ça veut dire, mes frères et sœurs. Arrêtez de penser que « je puis tout par celui qui me fortifie » signifie « je peux marcher au plafond par celui qui me fortifie ». Bien sûr qu'on peut marcher au plafond. On peut tout faire par celui qui nous fortifie. Mais c'est bien utile de marcher au plafond. Est-ce que Dieu veut vraiment toujours nous sortir de toutes les difficultés par lesquelles nous passons? Je ne pense pas. Je crois plutôt que cela signifie que la grâce de Jésus-Christ est suffisante pour permettre à Monsieur Paul de faire face à toutes les épreuves, à toutes les difficultés de la vie. Je crois que la grâce de Jésus-Christ lui permet de pouvoir vivre dignement en ayant des attitudes intérieures et extérieures aussi qui glorifient Dieu. Très souvent, je me suis demandé, mais comment ils font ces gens qui passent à la radio tous les jours? Ils sont toujours de bonne humeur, ils sont toujours super. Ils doivent bien avoir des problèmes aussi, non? Bien sûr. Ces présentateurs de télévision tout lisses qui ont l'air tellement, ces stars, mais bien sûr qu'ils ont des problèmes. Mais ils sont à un moment donné en représentation. Eh bien, nous sommes pas à des moments donnés, mais nous sommes tout le temps en représentation, en spectacle. Vous allez me dire, Michel, parce que t'es charnel. Non. Même Jésus-Christ a offert un spectacle sur la croix. toutes les dominations, les puissances et les autorités en mourant. Nous sommes en spectacle devant toutes les dominations, devant toutes les autorités mauvaises, mais aussi devant les anges, mais aussi devant nos frères et sœurs, mais aussi devant tout le monde. On est continuellement en spectacle. Alors s'il vous plaît, la dignité. Je puis tout par celui qui me fortifie, ça veut dire je peux très bien me comporter dignement dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve. Mes frères et sœurs, il faut être humble, il faut bien reconnaître que bien souvent nos attitudes sont à l'opposé de ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous avons besoin de quelque chose. Nous sommes dans la difficulté. Hop ! Nous voilà en train de crier à Dieu. Hop, tout de suite, on s'attend à ce que Dieu nous donne, ce dont nous avons besoin. Il ne nous vient même pas l'idée que peut-être ce n'est pas sa volonté. Ça veut dire qu'il ne veut pas nous donner ce que nous lui demandons. Pourtant, Jésus dit, ah Michel, quand même, Jésus dit, demandez, vous recevrez. Ouais. Lisez la vie de Paul. Lisez la vie de Paul. Lisez la vie des martyrs. Lisez Portes ouvertes. Lisez les histoires des chrétiens persécutés dans les pays islamistes fanatiques. Lisez ça. Est-ce que vous osez dire, en me regardant dans les yeux, que ces gens-là manquent de foi? Non, mes frères et sœurs. C'est nous qui sommes très souvent infantiles. Il ne nous vient même pas à l'idée qu'il se pourrait que Dieu ait un autre plan, un autre but dans la souffrance qui nous atteint. Souvent, on se sert même des Écritures pour justifier nos attitudes de sales gamins qui veulent tout. Papa est obligé, il a promis. Alors on est là, on se présente soi-disant devant le trône de sa grâce, et on dit, j'ai vu, hein? Seigneur, tu as dit! Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Si ce Seigneur à qui vous osez parler de cette manière-là vous apparaissait tout d'un coup, vous tomberiez en poussière immédiatement, terrorisé par la grandeur et la puissance de Dieu, et vous osez lui parler comme ça. Seigneur, tu as dit, c'est dans ta parole, je revendique maintenant au nom de Jésus. Alors, on le cherche. Ah là, hein, quand c'est des problèmes, on le cherche pour qu'il pourvoie à notre besoin. Mes frères et sœurs, Paul est un homme de foi et ça c'est incontestable. C'est un homme de foi. Il sait que Dieu peut pourvoir, il le sait. Mais il sait aussi que parfois, il va lui accorder sa grâce dans des moments difficiles plutôt que de répondre à son besoin. Et c'est quoi alors sa grâce? Lisons Hébreux 4:16. Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ah tiens, comment c'est écrit dans cette version-là? C'est écrit comme ça dans vos versions aussi? Comment c'est écrit dans vos versions? Ah ah! Ah ah! Pour trouver grâce en vue d'un secours opportun. Vous voyez, d'une Bible à l'autre, il faut contrôler, il faut avoir plusieurs versions. En vue d'un secours opportun. Un secours opportun. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, pas comme des vers de terre, hein, mais avec assurance, pour obtenir compassion. Moi, c'était comme ça que c'est dans ma version, je suis sûr que c'est comme ça aussi, hein, pour obtenir compassion, et trouver grâce en vue d'obtenir un secours opportun. Savez-vous ce que signifie opportun? Eh ben, moi, je pensais que je savais. Et puis, je suis allé dans le dictionnaire quand même pour m'assurer de savoir vraiment la vérité, parce que la vérité nous a franchis. Ça vient d'un mot latin, opportunus. Opportunus, ça signifie, tenez-vous bien, vous êtes attachés sur vos sièges, ça signifie qui conduit au port. Qui conduit au port. Tu es dans la tempête, va au trône de la grâce en esprit pour trouver la grâce de pouvoir arriver malgré tout au port. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas magnifique ça? En vue d'arriver au port, afin d'être conduit à bon port, malgré tout. Voilà ce que ça signifie. Oh, que c'est beau! Au port, là où Dieu veut, pas là où moi je voudrais. Parce que bien sûr, moi je veux aller au ciel, mais je veux aller au ciel sur un chemin de pétales de rose où tout va bien et où l'argent coule à flot, où tout va bien, super, magnifique. Non. Aller au port comme Dieu veut qu'on y aille avec sa façon à lui. Alors ne résiste pas, mon frère, ma sœur, ne résiste pas. Va au trône, ça tu peux. Va au trône, tu es un esprit dans un corps, tu le sais, tu es un esprit qui vit dans un corps. Tu n'es pas un corps dans lequel vit un esprit, tu es un esprit qui vit dans un corps. Alors laisse ton corps un moment et puis en esprit va au trône. En esprit va au trône, approche-toi de la salle du trône. Marche là, juste sur ce chemin, et tu arrives devant des marches, elles sont en or, tu imagines, ça conduit à la salle du trône, et puis tu pousses les portes, c'est des immenses portes, les battants des portes, n'est-ce pas? La salle du trône est ouverte devant toi, c'est c'est immense, c'est grand, c'est magnifique, et puis il y a le trône là-bas au fond, et tu vois le trône, et tu peux t'approcher avec confiance, voilà, tu vois, tu es en esprit, tu vois celui qui est assis là sur le trône de la grâce, c'est l'agneau de Dieu, c'est pas un dragon, c'est pas un monstre, c'est l'agneau de Dieu, celui qui a été immolé pour te faire grâce, c'est encore la grâce. Il n'est pas assis sur un trône de juge, mais sur un trône de grâce. Il est là pour te donner la grâce, c'est-à-dire de donner un cadeau. Quel cadeau il va te donner? Le cadeau d'avoir la possibilité d'aller au port, à la bonne destination, à bon port, dans le royaume de Dieu, en étant grandi. Dieu te conduit au port, mon frère, ma sœur, et tu vas y arriver. Tu vas y arriver, mais ce qui serait bien, c'est que tu y arrives consciemment, avec joie. Consciemment, avec joie, parce qu'il t'a gracié. Alors, ne résiste pas. Sache que tu es déjà gracié. Sache que, voilà, le chemin est ouvert devant toi. Ne murmure pas. Il y a des difficultés. Il y a des pierres. Il y a des racines qui sont là en travers. Il y a toutes sortes de trucs. Mais te plains pas. Viens au trône en esprit pour être renouvelé afin de recevoir la grâce d'aller jusqu'au bout d'une façon digne. Regardez Paul qui souffre, regardez Paul souffrir. Il souffre, mais il est digne. Oh, mais Paul, c'est un peu loin. Bon, d'accord, regardez sœur Simone Ruiz. C'est une femme qui souffre dans son corps. Regardez-la souffrir dignement. Vous avez déjà vu sœur Simone qui pleurniche, qui se plaint, qui vous casse les pieds avec ses histoires, tout ça? Jamais. Jamais. Elle souffre dignement. Qui peut dire amen?
Amen.
Frères et sœurs, on est entouré comme ça d'une nuée de témoins. D'une nuée de témoins qui ont été fidèles et qui sont encore fidèles, qui ont souffert ou qui souffrent encore et qui se sont comportés, qui se comportent encore avec dignité. Certains, ils ont été exaucés. Bien, c'est super. Ils ont obtenu la délivrance, ils ont obtenu la guérison, ils ont obtenu l'abondance, ils ont obtenu ce qu'ils demandaient par leur foi, c'est formidable. Et d'autres, par leur foi, ils n'ont rien reçu. Ils ont été sciés, torturés, c'est pas moi qui l'invente, c'est Hébreux chapitre 11. Mais ils ont tenu ferme, parce qu'ils allaient au port et ils savaient qu'au port, il y avait mieux. ils ont été jusqu'au port. Parce que leur esprit, en esprit, ils allaient au trône de la grâce jour après jour, après jour, après jour, après jour, et la nuit aussi. Et la nuit aussi. Tous ces témoins nous entourent, nous dit l'apôtre Paul. Tous ces témoins nous entourent. Ils forment, chapitre 12, Hébreux 12, une nuée, une nuée. Ils forment une nuée qui nous entoure. Une nuée de témoins qui nous entourent. Qui sont-ils, Michel, ces témoins qui nous entourent? C'est tous des vivants, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Alors, mais c'est qui, Michel? Eh bien, le premier, c'est Abel. Mais Michel, il est mort, Abel. Non, il est vivant. Ensuite, il y a Enoch. Ah, Enoch, il est dans cette nuée. Mais il est mort, Enoch. Non, 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 non. Il est vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il y a Noé qui est là. Il nous entoure. Ils forment une nuée. C'est telle une nuée. Abraham est là. Sarah, son épouse, est là. Joseph est là aussi, dans cette nuée. Des témoins, une nuée de témoins nous entoure. Et ils ne sont pas des morts, ils sont des vivants. Ma mère est là aussi, dans cette nuée. C'est la nuée de témoins qui est arrivée le jour de l'ascension. Et Jésus est monté et cette nuée a caché Jésus aux yeux des apôtres. C'est cette nuée qui s'est là présentée. Dans cette nuée de témoins vivants, Jésus est entré disparaissant aux yeux des apôtres. Mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours le bon moment de recevoir ce que nous demandons. Et comme on n'en sait rien, il nous est permis de demander, mais pas de râler, pas de murmurer, pas de se plaindre. C'est toujours le moment d'aller au trône de la grâce. C'est toujours le moment pour Dieu de nous accorder sa grâce. Il ne va jamais nous la refuser. Celui qui s'approche de son trône, il va lui donner son petit paquet de grâce. Il va lui donner. Dieu donne à celui qui demande sa grâce. Il nous accordera sa grâce pour qu'on puisse atteindre le moment parfait avec dignité, pas résignation, dignité. Pas, bon, je porte ma croix, moi. Non, avec dignité. Il a fixé le moment parfait. Alors, n'ayons pas l'attitude des bébés spirituels dans le caddie de leur maman à Carrefour et qui veulent tout avoir et qui veulent que leurs désirs soient exaucés immédiatement, qui trépignent, qui pleurent, qui tapent du pied, etc., etc. Vous avez tous connu des gamins comme ça qu'on aimerait gifler, mais voilà, la loi nous interdit de le faire, donc on ne les gifle pas. Mais si on pouvait voir tout ce qui se passe dans les cerveaux, c'est pas seulement des gifles, c'est la tronçonneuse pour certains. Approche-toi en esprit du trône de la grâce, et là, tu recevras la force nécessaire pour traverser ton désert, ma soeur, mon frère. Là, tu recevras ta portion de la grâce pour pouvoir marcher sur l'eau, pour pouvoir être secoué dans la barque, pour pouvoir nager à contre-courant. Il va pas inverser le courant, mais il va te donner la grâce de pouvoir nager à contre-courant. Et il fait comme il veut. Ce qui compte dans ces moments-là, c'est que tu auras un cœur pour le louer au plein milieu de l'adversité. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. On a été sauvés. Moi, j'ai été sauvé le 1er juin 1968 à 21h45 à la Maison du Peuple à Lausanne, après que Raphaël Duval, le gitan, ait fait un appel à la repentance. J'ai été sauvé là. Et si encore je suis là 44 ans après, c'est uniquement parce que Dieu veut se glorifier dans ma façon de me comporter. Et mes frères et sœurs, je ne l'ai pas toujours glorifié parce que je ne savais pas ces choses. J'ai dû apprendre ces choses. C'est par les souffrances qu'il a apprises que Jésus-Christ est monté. C'est par les souffrances qu'il a apprises que Paul est monté. C'est par les souffrances que nous apprenons beaucoup de choses. Je sais que c'est pas à la mode. Je sais qu'on peut, quand je m'adresse à un public d'inconvertis, c'est pas ça que je prêche. Quand je m'adresse à un public d'inconvertis, je leur prêche la bonne nouvelle de Jésus qui sauve, de Jésus qui guérit, et je leur donne des absolus de foi. et les gens sont sauvés, et les gens sont guéris. Mais après, une fois qu'on est sauvé, alors après, Dieu se sert de toutes sortes de situations difficiles aussi pour pouvoir nous faire monter. Parce que nous devons nous associer aux souffrances de Christ et même rajouter dans nos propres corps celles qui manquent à Jésus-Christ. On ne doit pas éviter la souffrance. Non, on doit glorifier Dieu dans la souffrance. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne délivre plus les chrétiens. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il n'est pas obligé de le faire tout le temps. Il y a deux auditoires. L'autre jour, sur Internet, il y en a un qui m'a dit que non, c'est pas vrai. J'ai dit si, si, c'est vrai. Il m'a dit non, c'est pas vrai. J'ai dit si, si, c'est vrai. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Qui va gagner? Moi. Jésus avait plusieurs auditoires. Il ne parlait pas la même chose à tout le monde. Et c'est encore aujourd'hui la même chose. La vie de disciple ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, du fait que tu sois riche ou que tu ne le sois pas, du fait que tu sois en Europe ou en Afrique. Ce qui importe, c'est que Christ vive en toi, à travers toi. C'est ça qui compte. Ce Christ qui servait les autres plutôt que de se faire servir. C'est ça qui compte. Oh là 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 là,
ça va mal.
Oui, ben, il faut quand même le faire, même quand ça va mal. C'est vrai, non? Dur, mais voilà. Ce Christ qui servait plutôt que de se laisser servir. Ce Christ qui veillait en priant plutôt que de dormir ou de compter les moutons. Ce Christ qui aimait plutôt que d'éviter les grincheux. Paul, il écrit, « Suivez mon exemple, comme moi de mon côté, je suis l'exemple que Jésus-Christ nous a laissé. » Sa vie, elle était différente de celle de la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sa compréhension des choses était très différente de celle qui nous donne à... Ben disons-le carrément, on ne nous enseigne pas correctement. On ne nous dit pas tout. La compréhension de beaucoup de chrétiens est faussée parce qu'il y a des enseignements d'une... C'est pas... Alors on dit, oui, il faut prêcher un évangile simple. Oui, d'accord, mais pas simpliste. Toutes ces compréhensions aujourd'hui sont faussées avec ce faux évangile de la consommation. Comprenez comment Dieu veut... Que vous meniez votre vie au service des autres. Comprenez ça. Bien sûr, Dieu est le Dieu des miracles. Alors là, moi, j'ai aucun complexe devant quiconque de dire ça. Parce que depuis que je suis converti, j'ai vu des milliers de miracles. Je sais que Dieu est le Dieu des miracles. Mais croire que Dieu n'est que le Dieu des miracles, c'est raccourcir Dieu. C'est pas vrai. C'est se tromper, ou c'est tomber dans une ruse du diable qui est un trompeur. Depuis que vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature, créée par Dieu, et maintenant il vous façonne, il vous forme. Il vous forme à l'image de Jésus, c'est-à-dire il vous forme pour vous amener à avoir le caractère de Christ. Quand on chante « Te ressembler Jésus », voilà, on veut ressembler à Jésus. Mais ressembler à Jésus, c'est pas avoir les cheveux mi-longs puis avoir une barbe, puis faire comme ça. Non, c'est le caractère. C'est avoir le caractère de Christ. Ah, c'est autre chose. Mais pour avoir le caractère de Christ, ben, il faut être un peu malmené. Il faut être un peu malmené, parce que Jésus a été malmené, et c'est par les choses qu'il a souffertes qu'il a appris. Suivre Dieu, marcher selon l'Esprit, c'est ça que ça signifie. Ça signifie expérimenter sa grâce. Mais comment vous pouvez expérimenter sa grâce s'il n'y a pas des contrariétés? Comment? Ça veut dire, marcher selon l'Esprit, ça ne veut pas dire avoir des miracles, ça veut dire expérimenter sa grâce, ça veut dire expérimenter toutes sortes de difficultés qui font que nous allons au trône de la grâce pour pouvoir recevoir la portion de grâce dont nous avons besoin pour le moment opportun, pour le secours opportun, c'est-à-dire pour pouvoir aller au port. C'est clair? Moi, je trouve ça tellement beau, tellement beau. C'est expérimenter des brisements, marcher selon l'Esprit. qui nous conduisent à Christ. Jésus était le serviteur de tous. Il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Il aurait pu, hein. D'un coup de baguette magique. C'était facile, hein. Il savait transformer l'eau en vin.
Oui, aujourd'hui, des pâtes, j'aime pas ça. Schlippendo.
Hop, ça y est. Des filets mignons au mori. Rien de plus facile pour lui. Et puis comme pour nous, tout est possible. Hein? Notre frère Fabrice Soma, il est là depuis 3 semaines, il souffre. Non, il ne souffre pas. Mais il ne mange plus de thon. Je suis sûr que s'il mettait en pratique le « tout est possible » à celui qui croit, vous le verriez faire. Il changerait nos pâtes au fromage en thon. Pas vrai? De temps en temps, pas tout le temps. Mais arrêtez, c'est pas ça, la vie par la vie de l'esprit. Regardez la vie de Paul. Avez-vous l'impression que sa vie était une réussite? Il a souffert pour l'évangile, pas seulement parce qu'il prêchait, parce qu'il témoignait, mais parce qu'il vivait. Il vivait sa vie dérangée. Il vivait comme le serviteur de tous. Il a rencontré de l'opposition de la part des païens. Et comme il vivait comme le serviteur de tous, il était méprisé par les chrétiens. D'abord, il l'aimait bien. Et puis après, ils sont devenus familiers. Puis après, ils sont devenus arrogants. Puis après, ils sont devenus franchement désagréables. Puis après, ils sont devenus franchement méchants. Parce qu'il était tout simple, l'apôtre Paul. Il n'arrivait pas, quand il arrivait, il n'y avait pas une auréole qui brillait sur sa tête, puis il n'arrivait pas comme ça. Flippendo. Non. Il était comme vous et moi, et puis il débarrassait la table, et puis il faisait la vaisselle, et puis voilà, puis bon. Il nettoyait les toilettes. Oh, un apôtre comme ça. D'abord, on trouve sympa, il dit, ah ben, il ne se prend pas la tête. Il n'a pas la grosse tête, l'apôtre, c'est super, l'apôtre. Hein? Et l'apôtre, hein? Alors, on se rend bien copain, puis après, on devient, hein? Puis ça finit par de la méchanceté, plus de respect, rien du tout. Et il a souffert de la part des frères. Paul, il portait sa croix, c'est-à-dire avec ça, il allait au port. Pas au cochon, hein? Il allait au port. Et sur cette croix qu'il portait, il allait mourir lui-même. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Imaginez, Paul, ce géant de la foi, obligé de fabriquer des tentes pour pouvoir manger et pour pouvoir payer ses voyages missionnaires. Honte aux chrétiens qui le connaissaient à l'époque et qui le méprisaient et qui ne soutenaient pas son ministère. Filez cornes, comme on dit en Suisse. Honte à vous! Chrétien de pacotille qui laissait Paul au fond d'une cour en train de coudre pour pouvoir payer sa bouffe et ses voyages missionnaires. Je dis en vérité, selon Luc 12, 47, que ces chrétiens-là seront sauvés, mais ils prendront des coups avant de rentrer dans le royaume de Dieu et ça sera bien fait pour eux. Ça leur aurait coûté quoi à tous ces gens-là de lui donner 10 balles? Nombreux comme ils étaient, ça leur aurait amplement payé donné la possibilité d'accomplir son ministère. Mais non, rien du tout. Et si on les interviewe, cher ami chrétien, du premier siècle, pourriez-vous nous dire pourquoi vous ne souteniez pas l'apôtre Paul en son temps, s'il vous plaît? Les caméras sont fixées sur vous, allez-y.
Ben, on lui avait dit, si vous avez des besoins pour Paul, ben, il n'y a qu'à dire, on vous enverra un chèque. Si vous nous le dites, on vous enverra. Mais il ne nous disait rien. Or, alors, on pensait qu'il avait tout ce qu'il fallait.
Vous imaginez, vous, Paul, qui va mendier auprès des chrétiens? Vous savez, chez beaucoup de ces gens-là, on prie chez ces gens-là. Mais on n'agit pas. Bande d'abrutis méchants, vous méritez des coups et vous les aurez. Vous vouliez que Paul s'humilie à vous demander la charité. Vous voyez, tout ça, ça montre un grand manque de maturité de la part des chrétiens. Ils n'étaient pas solidaires. Ils avaient l'apôtre Paul. Non mais, vous vous rendez compte? Ils avaient l'apôtre Paul, là, avec eux. Moi, je suis content que c'est écrit, ça, que l'apôtre Paul est obligé de faire des tentes. C'est bien, ils auront honte. Pendant... Si Dieu garde la Bible pour l'éternité dans une petite vitrine au ciel, on aura toujours la possibilité de leur dire « Mais dis donc, vous avez fait ça Quelle honte. Non, je crois que Dieu se débarrassera de ce livre pour pas que certains aient honte de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Paul portait sa croix, l'outil de sa propre mort, mourir à soi-même. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, mourir à soi-même. Quand notre vie n'est pas confrontée, elle ne peut pas se transformer. Voilà, mes frères et sœurs. Alors ne vous plaignez pas des obstacles qui se dressent devant vous, mais imitez l'apôtre Paul. La grâce de Dieu est suffisante pour les gens comme Paul, pas pour les autres. Mais pour les gens comme Paul, elle est suffisante, pas pour les autres. Mais pour ceux qui sont comme Paul, elle est suffisante, pas pour les autres. Elle n'est pas suffisante pour vous, peut-être, parce que vous n'êtes pas comme Paul. Mais si vous étudiez la vie de Paul, si vous étudiez et si vous conformez votre vie à la vie de Paul, alors sa grâce, la grâce de Dieu sera suffisante pour vous. Mais sinon, elle ne sera pas suffisante pour vous. Eh oui. Si vous êtes vraiment comme Paul, un vrai disciple, vous resterez fort dans n'importe quelle situation, étant sur une bonne fondation et allant puiser dans la grâce de Dieu, de bonnes fondations, puisant dans la grâce de Dieu, gardant notre cœur en lui, dans sa paix, dans sa joie, alors vous serez toujours au bénéfice de la plus grande révélation que Paul n'a jamais eue. Il avait eu la révélation de la puissance de la grâce. Amen. Jésus, je te prie de bénir ces mots que j'ai dit, avec peut-être un peu de dureté, mais Seigneur, c'est afin de choquer les esprits pour un réveil, afin que chacun se mette à dire, mon Dieu, où est-ce que j'en suis? Est-ce que vraiment je peux m'attendre à ce que ta grâce me suffise dans l'état où je suis? Dans la façon que j'ai de comprendre les événements, est-ce que vraiment je peux dire que ta grâce me suffit? Est-ce que vraiment je peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie avec la compréhension de ce que j'ai de la vie chrétienne? Seigneur, aide-moi, aide chacun d'entre nous à être vraiment bien aligné sur l'apôtre Paul qui lui-même était aligné sur Jésus-Christ, afin que ton nom soit glorifié par chacune de nos vies. Amen. Amen.
Bonjour à tous. Alors, c'est toujours un plaisir de témoigner. Moi, j'adore témoigner, j'adore raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je peux vous dire que cette semaine, pour moi, c'était une semaine qui était très riche. Le Seigneur m'a donné beaucoup cette semaine, comme il le fait à chaque fois. Et cette semaine, vous savez, j'habite chez les Gitans, là, beaucoup le savent, la plupart le savent, je parle pour ceux qui ne me connaissent pas. J'habite chez les Gitans et ça fait 3 ans que je suis venu au Seigneur. Je connaissais pas le Seigneur, je connaissais pas les choses de Dieu. Et le Seigneur m'a fait une promesse. Un jour, il m'a dit qu'il m'instruirait, qu'il me montrerait le chemin. Et sur ce chemin, il s'est servi de personne. Je me suis retrouvé chez des Gitans, chez un pasteur que vous connaissez bien, qui est Raphaël Duval. Il m'a pas mis chez, je dirais, le plus grand théologien. Raphaël Duval, c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit. C'est quelqu'un qui est, je dirais, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Mais la parole de Dieu, il l'a dans son cœur. Et le Seigneur m'a placé à côté de lui. J'ai appris à connaître Dieu dans la simplicité. Et je dirais que par cet intermédiaire, par Raphaël, c'est comme ça que j'ai connu la communauté, que j'ai rencontré Michel. Et c'est pas par hasard si je vous ai rencontrés tous ici, la communauté. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vous vois, j'apprends quelque chose. Vous m'apprenez quelque chose. Et c'est vrai que quand un frère, une sœur nous apprend quelque chose, je m'aperçois qu'on mûrit. J'ai mûri. Je suis passé par les eaux du baptême. Et c'est vrai, je ne connaissais pas. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne connaissais pas. Donc j'ai été baptisé. J'étais comme ça. Puis j'ai eu une révélation par votre intermédiaire. Et vous savez, Raphaël, l'ancien, il me dit toujours, Francis, quand on te parle de quelque chose, surtout quand c'est les choses de Dieu, réfère-toi toujours à la Bible. Regarde bien si c'est écrit et tout ça. Et on va parler d'un nouveau baptême. C'est pas un nouveau baptême, c'est le baptême d'eau. Mais ce baptême-là, on m'a dit, tu connais le baptême au nom de Jésus-Christ. comme faisaient les apôtres. Ben, je dis, moi, j'ai été baptisé. J'ai été baptisé au nom, comme dit dans Matthieu, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, je me suis aperçu, j'ai dit, mais j'ai lu dans Matthieu 28, 19, et j'ai dit, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est vrai que Michel m'a beaucoup éclairé, mais j'ai dit, c'est vrai que le nom, il n'y a pas de S. En principe, il devrait y avoir un S. Ça voudrait dire qu'en fait, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Il n'y a pas trois personnes, c'est la même. Alors donc, Jésus-Christ, c'est au nom de Jésus-Christ qu'il faut être baptisé. Vous voyez, ça m'a éclairé. J'ai vérifié. Puis après, j'ai vérifié dans les actes des apôtres et tout. Puis je me suis aperçu que, bah oui, on ne baptisait qu'au nom de Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, si... Moi, vous savez, je suis quelqu'un, j'écoute la Bible, je demande au Seigneur, je prie quand je lis la Bible. Et puis, si je sens que ça me parle, que je me sens bien, je me dis, c'est le plan de Dieu. Parce que si c'est pas le plan de Dieu, on n'est pas bien, on se sent pas bien, on est angoissé et tout. Et là, je sens vraiment que c'est le plan de Dieu et que ça m'interpelle. Et puis, cette semaine, j'ai pris la décision. Puis, je refais mon baptême et je veux être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'était en même temps pour moi une façon de montrer au Seigneur, dis Seigneur, je refais encore un pas vers toi. Merci de m'instruire, merci de me montrer, merci de m'avoir mis Raphaël, merci de m'avoir mis Michel Janton, d'avoir mis Alain, la communauté, tout le monde qui est ici, pour m'éclairer davantage. Alors c'est vrai, je lis en ce moment énormément de livres que je n'aurais jamais lus sans vous connaître à vous, puisque le Seigneur m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'instruire. Et il s'est servi de vous, comme il s'est servi de Raphaël, comme il s'est servi d'autres frères, d'autres sœurs. Et plus ça va, plus je grandis dans les choses de Dieu et je remercie le Seigneur. Et je me suis baptisé au nom de Jésus-Christ, mais il s'est passé autre chose. J'ai appris autre chose, j'ai lu autre chose. Je ne savais pas qu'on pouvait, comme dit l'acte des apôtres, dans 1 Corinthiens 15, 29, sur le baptême des morts. Alors ça, je vous cache pas que ça m'a beaucoup intrigué. Et j'en ai entendu parler, parce que chez les voyageurs, je vous cache pas que, oh là 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 là, alors ça, c'est satanique, c'est ceci, c'est cela. Puis je dis, Raphaël, il m'a dit quand même que si c'est marqué dans la Bible, c'est que c'est la vérité, c'est que ça se fait. Alors moi, vous savez, je suis quelqu'un, je cherche pas à comprendre, c'est écrit dans la Bible, je le fais. Le Seigneur l'a fait, le Seigneur l'a dit, moi je le fais. J'ai recherché, j'ai fait des recherches de partout. Parce que je me confie jamais dans l'homme. Si quelqu'un me dit quelque chose, je vérifie toujours la Bible. Puis j'ai vérifié et tout, et puis de fait, j'ai appris que il y en a qui se baptisaient pour les morts, bien souvent par rapport à leur famille, parce que ils n'avaient pas eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Puis je me dis au moins, Seigneur, papa, il n'a pas eu le temps. Mon frère Daniel, il n'a pas eu le temps. Jackie, il n'a pas eu le temps. Ils n'ont pas connu les choses de Dieu, Seigneur. Ça veut dire que pour eux, il y a peut-être quelque chose encore pour eux. Tu dois pouvoir faire quelque chose si ce que tu dis dans ta parole est vrai. Donc ça veut dire que mon frère, mes deux frères, mon père, il peut encore se passer quelque chose pour eux. Alors j'ai pris la décision, j'ai dit, Seigneur, je vais faire comme il est écrit dans ta parole. Ben, je vais me baptiser pour mon père et pour mes deux frères. Mais je vous cache pas, quand Michel m'a baptisé, ça m'a fait drôle. J'ai eu quelque chose qui est parti de moi. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas l'expliquer. Comme j'expliquais, c'était hier soir ou ce matin à Alain, au bout de cette baignoire, j'ai eu l'impression, ça fait comme un flash de voir mes deux frères et mon père. Ça fait un flash. Et puis, en moi, il s'est passé quelque chose, je peux pas l'expliquer, ça, comme si quelque chose, une paix, quelque chose qui est sorti, que ça y est, j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit, j'ai obéi, ça se fait, et puis, j'avais l'impression que mes deux frères, mon père, me disaient, me montraient, t'en as mis du temps. Et là, je vous cache pas que ça m'a, je sais pas comment l'expliquer. C'était magnifique. C'est une expérience que je crois que jamais je pourrais oublier de ma vie. Et ça m'a donné encore plus la foi, le zèle, j'ai une force que je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Ça fait 3 jours, je ne dors pas. Je ne vous cache pas, je ne dors pas. J'arrive pas à dormir. Il n'y a pas que le café. J'arrête pas de prier, le Seigneur, la Bible. J'arrête pas, je ne dors pas. Depuis que je suis là, je n'arrive pas à dormir. Mais c'est génial. C'est, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est, merci Michel. Merci la communauté. Merci de m'apprendre tout ça. Puis merci Seigneur, parce qu'il ne m'a pas menti. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, j'ai eu un appel au ministère. Et le Seigneur, dans une prophétie, m'a dit, t'inquiète pas pour tes études. Je sais que maintenant, je n'ai plus besoin de m'inquiéter. J'ai des frères, j'ai des sœurs. J'ai du monde autour de moi qui m'instruisent chaque jour, qui me montrent. Le Seigneur se sert d'eux pour me former. Et je les en remercie et que le Seigneur vous bénisse à tous. Soyez bénis. Amen.
Témoignage. C'est vrai, c'est bien. L'évangile est annoncé dans le séjour des morts. C'est Jésus qui a inauguré la route. Il est allé, on trouve ça dans 1 Pierre 3. Vous savez, comme les théologiens ont découpé la lettre de Pierre en petits morceaux, alors dans 1 Pierre 3, il est dit que Jésus est allé prêcher. Et puis dans le chapitre 4, c'est écrit que c'est l'évangile qu'il a prêché. Afin que ceux qui avaient été jugés quant à la chair et qui avaient été mis dans le séjour des morts puissent vivre maintenant selon Dieu par l'Esprit. Et dans Éphésiens 1, c'est dit que quand il est sorti de là, il a emmené avec lui des captifs, des gens qui étaient captifs, il les a emmenés avec lui. Et où est-ce que vous pensez qu'ils sont? Ils sont dans cette fameuse nuée dont je vous parlais tout à l'heure dans la prédication. Et c'est magnifique. Et ils sont dans le repos, ils attendent la résurrection finale, mais ils sont dans une paix, dans une félicité. Et voilà, je suis très content. Nous avons pratiqué déjà plus de 60 millions de baptêmes pour les morts ici au château et nous allons continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est un grand ministère, en plus du ministère de salut, de guérison que nous opérons là-bas, surtout en Afrique. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il nous a accordé. Vous rappelez que Dieu avait dit que de cette maison sortira quelque chose d'extraordinaire. Et ça n'a pas tardé, puisque 3 mois après, Dieu nous donnait cette révélation. Maintenant, la sœur Ramsey, qui nous avait prophétisé, est partie aussi vers le Seigneur. C'est beau, hein? Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. Merci Seigneur, merci pour cette belle journée. On va passer parmi vous pour la collecte, et puis on va chanter un chant pendant que les frères et sœurs, un enfant passe pour la collecte. Un chant encore a cappella. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans un a cappella?